Cette semaine, Liberté FM inaugure un nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré à la philosophie. Chaque semaine, Jacqueline Boniface, professeure agrégée émérite de mathématiques, maîtresse de conférences en philosophie à l'université de Nice Sophia Antipolis, auteur de plusieurs ouvrages et aujourd'hui animatrice d'un café philo à la médiathèque Jean Roux de Ribérac, nous aidera à porter un regard éclairé sur les grandes questions de notre temps. Pour cette première chronique, elle s'intéresse à une préoccupation majeure de notre société, la crise de l'enseignement, ses causes profondes et les pistes de réflexion qu'elle ouvre. Madame Boniface, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On vous écoute pour cette première chronique.
Je vous remercie. À chaque rentrée scolaire, les mêmes problèmes de l'enseignement apparaissent, plus inquiétants, plus insurmontables que les années précédentes. Érosion du niveau des élèves aux évaluations internationales, malaise des enseignants, difficulté de leur recrutement, montée des phénomènes de harcèlement scolaire, violence à l'école, etc. Les symptômes sont nombreux et la crise apparaît aujourd'hui omniprésente sur notre territoire national et semble habiter notre société et sans doute aussi la plupart des sociétés occidentales. Cette crise se déploie sur divers secteurs qui s'articulent entre eux. Crise de l'école, crise de la culture, crise de l'autorité, crise de la démocratie, crise des institutions, crise de l'enseignement. Cette dernière, la crise de l'enseignement, étant au cœur de toutes les autres. Avant d'en venir à l'enseignement, je m'arrêterai sur le terme de crise. Le mot crise vient du grec krisis, qui signifie décision importante, choix. Chez Hippocrate, par exemple, la crise est le moment où l'on doit décider d'un changement de traitement. C'est la phase critique dont la suite peut aussi bien être la guérison que l'issue fatale. De façon plus générale, une crise, qu'elle soit médicale, économique, sentimentale, est un paroxysme d'incertitude et d'angoisse où tout est en suspens. C'est l'instant crucial où l'on doit prendre des décisions, faire des choix. Dans ce sens étymologique, le terme désigne un moment bref, décisif. Or, nos crises actuelles se caractérisent par leur durée, l'incapacité où nous nous trouvons de les résoudre. En 1976, dans un article qui a fait date, intitulé « Pour une crisologie », c'est-à-dire une théorie de la crise, Edgar Morin avait souligné cet usage extensif de la notion. Quand la crise était limitée au secteur économique, écrivait-il, on pouvait au moins la reconnaître à certains traits quantifiés. Mais dès qu'elle s'élargit à la culture, la civilisation, l'humanité, la notion perd tout contour. Elle permet tout au plus de dire que quelque chose ne va pas. Malgré cette différence d'extension, la crise, aujourd'hui comme hier, se caractérise par l'incertitude qu'elle génère. L'extension nouvelle du concept de crise, la philosophe Myriam Revaud-Allonne, dans son ouvrage « La crise sans fin », paru en 2012, l'analyse comme un nouveau paradigme indissociable de notre modernité démocratique. « Nous sommes immergés dans la crise », explique-t-elle, « nous vivons et pensons sous le surplomb de la crise ». Dès 1954, Hannah Arendt, dans ses essais regroupés sous le titre « La crise de la culture », avait vu dans cette crise, ou ces crises, la conséquence de la rupture de notre modernité avec la tradition. Poursuivant les analyses d'Arendt, Myriam Revaud-Allonne en déduit que cette rupture contraint la modernité à s'autofonder, ce qui l'a conduite à une incessante interrogation sur elle-même, sur sa légitimité. Ainsi, la philosophe voit-elle dans le mot « modernité » l'idée que notre temps se fait de lui-même, dans sa différence, sa nouveauté par rapport au passé, et moderne en quelque sorte ce qui a rompu avec le passé. Pour en venir à la crise de l'enseignement qui nous occupe plus particulièrement, les analyses d'Hannah Arendt me paraissent mériter, aujourd'hui encore, toute notre attention. Son constat apparaît comme un paradoxe, lequel pourrait expliquer, au moins en partie, les difficultés, voire l'impossibilité, d'une résolution de cette crise. Dans le monde moderne, explique Arendt, le problème de l'éducation tient au fait que, par sa nature même, l'éducation ne peut faire fi de l'autorité ni de la tradition, et qu'elle doit cependant s'exercer dans un monde qui n'est pas structuré par l'autorité ni retenu par la tradition. Ce problème commence dans la famille où l'autorité parentale a cédé la place à la discussion, l'argumentation et la persuasion, incompatibles avec l'autorité, comme l'avait noté Arendt. Après avoir distingué l'autorité du pouvoir et de la violence, là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué, elle sépare l'autorité de tout processus argumentatif. Là où on a recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté. Ceci du fait de l'ordre égalitaire que suppose le recours à des arguments. L'autorité, selon elle, est toujours hiérarchique. Une hiérarchie dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité. C'est exactement ce point, cette hiérarchie, cet ordre des places accepté par les deux parties, qui est particulièrement mis en question aujourd'hui, où le principe d'égalité s'est partout imposé. Et c'est en tout premier lieu au sein de la famille que ce principe s'est établi, avec l'évacuation de l'autorité qui s'ensuit. Ce qui d'ailleurs laisse souvent les parents désarmés au quotidien, jusqu'à avoir parfois recours à des coachs parentaux ou à des formations à la parentalité par l'intermédiaire de sites internet spécialisés. Mais surtout, cette désertion de l'autorité au sein de la famille prépare mal les enfants à la reconnaissance de celle d'un professeur. Comment, en effet, demander à des enfants de reconnaître à leur professeur une autorité qui est partout ailleurs contestée, et d'abord au sein même de leur famille? Précisons les termes de cette crise de l'enseignement. Sa situation géographique, tout d'abord. Épargnant les pays d'Extrême-Orient et une partie de l'Europe du Nord, cette crise touche en particulier les sociétés démocratiques, ethniquement plurielles, aux prises avec de graves difficultés économiques et touchées par un chômage important. Elle épargne les établissements scolaires fréquentés par les enfants des classes aisées et connaît ses manifestations les plus flagrantes dans les établissements publics des quartiers populaires ou déshérités. Parmi ces établissements, elle affecte de manière beaucoup moins visible l'école élémentaire que les établissements secondaires au niveau du collège. Dans l'enseignement supérieur, la liberté accordée aux étudiants la rend peu décelable. Et dans les filières professionnelles ou techniques, ces manifestations dépendent beaucoup de la nature des établissements et du degré auquel l'orientation des élèves a été voulue ou subie. Dans les établissements où la crise est le plus manifeste, celle-ci prend la forme d'une crise de l'autorité pédagogique qui se révèle par des actes irrespectueux, injurieux et violents des élèves à l'égard de leurs professeurs, lesquels se montrent dans l'incapacité à obtenir des élèves un comportement adapté à la poursuite d'un cours. Alors que faire? Le ravaudage régulier des programmes, seul remède proposé par l'enseignement public, a montré son inefficacité et augure mal d'une possible résolution de la crise. Pourtant, parallèlement à cet enseignement public, des écoles alternatives ont vu le jour et se sont multipliées en France. Qu'elles soient inspirées des méthodes Montessori, Steiner, Freinet ou autres, ces écoles ont en commun l'importance accordée à l'épanouissement de l'enfant, la valorisation d'activités manuelles et artistiques et l'importance accordée au travail d'équipe. Sans tout importer de ces écoles qui ont leurs propres spécificités et sans doute leurs défauts, notre éducation nationale pourrait peut-être s'inspirer de leurs méthodes actives qui valorise le travail de groupe. Le faire ensemble, vectorisé par un projet commun, permettrait aux élèves, me semble-t-il, non seulement d'acquérir autonomie et sens des responsabilités, mais encore d'accepter une autorité justifiée non plus par une hiérarchie contraignante, mais par la compétence et la nécessité. Car la réussite d'un projet nécessite le respect d'un cadre et de règles précises. Une école digne de ce nom serait alors possible, capable d'enthousiasmer, de faire rêver. Une école qui donnerait aux élèves cette sécurité essentielle d'être compris et aidés sur le chemin vers l'âge adulte, à travers la maîtrise des connaissances indispensables pour s'orienter librement dans la société.
Eh bien, merci beaucoup Jacqueline Boniface pour cette première chronique qui nous rappelle que les difficultés de l'école ne sont pas seulement pédagogiques, mais qu'elles interrogent notre rapport à l'autorité, à la transmission et plus largement à la société que nous voulons construire. Car comprendre une crise, c'est déjà commencer à entrevoir les chemins qui permettront de la dépasser. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Liberté FM pour nouvelles chroniques philosophiques. Excellente semaine à toutes et à tous et merci Madame Boniface.